Il semble que la complexité des pratiques et des discours concernant la sexualité ne pouvait pas se déduire des interdits, mais j'étais toujours fasciné par ce thème majeur, il faut tout déduire de l'interdit, parce que la sexualité, c'est fondamentalement ce qui est interdit, plus encore que tout le reste.
Elle a failli casser son écran en entendant Donald Trump, lors d'une interview télévisée, affirmer récemment que ses propos dégradants, sexistes et humiliants sur les femmes ne s'étaient jamais transformés en action. Entre autres citations de ses dialogues exhumés et qui ont fait polémique à juste titre, Donald Trump affirmait que les femmes, on pouvait les attraper par la chatte. Elle, c'est Jessica Leeds, aujourd'hui âgée de 74 ans et qui a témoigné pour le New York Times d'un voyage cauchemardesque en avion à côté de Trump il y a plusieurs dizaines d'années. Il était pareil à une pieuvre, dit-elle, ses mains étaient partout. La vidéo est postée sur le site du journal américain et fait entendre le témoignage calme et glaçant qui concerne les agissements d'un potentiel futur président de la République américaine. Mais il concernerait aussi l'impunité de tant d'hommes ailleurs et à d'autres moments dans le monde. Il est 14h passé de 2 minutes, vous écoutez France Culture et sans consentement clair, c'est bas les pattes. Bienvenue dans les Nouvelles Vagues. Toutes les reconnaissances allant dans le sens de l'adéquation progressive entre son identité de genre et son corps sont des reconnaissances qui solidifient le choix et le bien-être de Diane Le Riche, qui a débuté un traitement hormonal il y a quelques années. Elle est l'invitée de notre rubrique 5 fois en fin d'émission.
À Pôle emploi, je suis Diane Le Riche, mais je suis Monsieur Diane Le Riche parce que j'ai ma carte de sécu qui commence par un 1.
Elle parle aujourd'hui de l'obtention de son diplôme de formatrice à son nom de femme en attendant un jour une modification officielle de son état physique civil. Récit vers 14h50. C'est le quatrième temps donc de ce chantier thématique consacré au corps des femmes. Une série d'émissions dans laquelle il ne nous paraissait pas possible de ne pas parler de prostitution. Comme hier, pour les troubles alimentaires, on ne peut pas dire que la prostitution ne touche que les femmes. Cependant, l'on peut affirmer tout de même que les femmes sont majoritaires dans la sociologie des personnes se prostituant, en France par exemple. La sociologie, justement, les réalités économiques et sociales ne sont pas parmi les arguments les plus souvent avancés pour justifier le sens commun qui tient pour évidence que la prostitution est une réalité déplorable à bien des égards. Vous écrivez d'ailleurs, Lilian Mathieu, que l'on peine parfois, souvent, à argumenter ce que vous nommez comme une réalité qui dérange. Toutes les raisons de combattre la prostitution ne se valent pas, écrivez-vous encore. Alors votre livre « Prostitution, quel est le problème ?» paru aux éditions textuelles se penche méthodiquement justement sur ces raisons qui sont avancées, comme sur les termes d'un débat français qui ne cesse de se reformuler. Bonjour à vous et bienvenue.
Bonjour.
On vous entend très bien grâce aux équipes de France Bleu et du bureau lyonnais que l'on remercie au passage.
De deux choses l'une. Ou bien la prostitution est une plaie sociale, c'est une honte pour la société qui l'admet. Et alors, évidemment, on devrait faire beaucoup plus d'efforts que l'on en a fait jusqu'ici pour la supprimer de manière efficace. Ou bien, c'est une chose qui doit être considérée ou comme indispensable, ou comme nécessaire, ou comme utile, ou comme tout au moins admissible, tout au moins tolérable. Et alors, dans ce cas, si on prend la chose sous ce point de vue, il faut que ce soit un métier ordinaire. Ce qui est tout à fait inadmissible, à mon avis, c'est d'estimer qu'un métier qui est toléré dans la société soit un métier considéré comme dégradant pour celui qui l'exerce. C'est-à-dire que je pense que, ou bien il faut que ce métier soit supprimé, effectivement supprimé, ou bien il faut qu'il soit considéré comme un autre métier. C'est-à-dire que l'on l'exerce sans, non pas dans l'atmosphère trouble qui règne actuellement, mais avec, dans des conditions ordinaires, avec des assurances sociales, des caisses de compensation, l'inspection du travail, et tout ce que vous voulez pour ce genre-là, et qu'il ne règne pas autour des discussions qui concernent la protection de ce métier, cette atmosphère qui règne actuellement. C'est-à-dire qu'on a déjà depuis 100 ans, on discute la protection de divers métiers. Bien entendu, la question de l'exploitation des employés par leurs employeurs n'est pas nouvelle. On l'a discuté abondamment au cours du siècle dernier pour toutes sortes de métiers et l'on est arrivé à des solutions. On est arrivé à des solutions parce qu'on a considéré la chose en plein jour comme un métier. On parlait de tous les métiers de façon normale et on discutait la chose de façon normale. Et la raison pour laquelle on est arrivé à rien dans cette matière, c'est que l'on a toujours considéré la chose en dessous avec jamais parlé des choses clairement et au grand jour.
On a toujours considéré les choses en dessous. On commence par cette archive de 1946. C'est la voix d'Irène Joliot-Curie qui parle d'une atmosphère trouble dans le débat à l'époque. Bon, déjà, ça nous permet d'entendre que c'était déjà trouble il y a 70 ans, Lilian Mathieu. Est-ce que les termes du débat, puisque vous les examinez précisément, ont beaucoup changé ?
Non, c'est un des aspects les plus frappants de ce qu'on vient d'entendre, c'est que la manière dont cette femme politique pose les enjeux du débat sont très très contemporains, c'est-à-dire que on a aujourd'hui encore des gens qui estiment que la prostitution est une activité dégradante qu'il faut supprimer, et puis en face on a des gens qui estiment que c'est un métier comme un autre qui mérite d'être reconnu, qui mérite de donner accès à un certain nombre de droits sociaux. Alors, ce qui a peut-être changé radicalement depuis que cette archive a été enregistrée, donc il y a 70 ans, ce sont les rires qu'on entend. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, dans le débat, on pourrait s'autoriser de rire de manière aussi explicite de ce sujet. C'est-à-dire que ce qui a sans doute changé, c'est la dramatisation des termes du débat, de la manière dont le débat sur la prostitution est aujourd'hui pesé. Mais néanmoins, cette manière de poser une espèce d'alternative avec simplement deux pôles, deux options envisageables, soit celle de l'activité à supprimer parce qu'elle est dégradante, soit celle du métier à reconnaître, n'a pas changé. Et je dirais d'une certaine manière, ce qui manque aujourd'hui comme ce qui manque aux propos qu'on vient d'entendre, c'est une troisième option qui permettrait aussi d'insérer la prostitution comme une activité qui permet à des personnes, et effectivement majoritairement de manière écrasante, majoritairement des femmes, de vivre ou de survivre, c'est-à-dire de gagner des revenus, mais aussi des personnes qui s'engagent dans cette activité faute de pouvoir accéder à un autre type d'emploi davantage légitime, qui soit suffisamment rémunérateur pour pouvoir vivre dignement. C'est-à-dire qu'il n'est pas sûr ni que le fait de tenter, comme on l'essaye depuis avril 2016, d'éradiquer la prostitution en pénalisant les clients. Alors la question des alternatives, c'est d'ailleurs assez significatif. Elle commence à être posée, c'est-à-dire qu'on nous annonce des éléments un peu plus précis sur les parcours de sortie de la prostitution qui vont être proposés aux personnes qui ont perdu leur clientèle. Mais compte tenu de l'état du marché du travail, spécialement pour les emplois dits féminins et faiblement qualifiés, Il y a peut-être pas beaucoup d'espoir que ça soit, qu'il y ait beaucoup d'offres d'emplois alternatives qui soient proposées. Et dans le même temps, la solution, entre guillemets, de la reconnaissance de la prostitution comme un métier comme un autre pourra certes bénéficier à des personnes qui envisagent leur activité sur le mode d'une activité régulière, qui affirme explicitement leur statut, mais sans doute ne répondra pas aux besoins des personnes qui exercent cette activité sur un mode informel, sur le mode de la survie, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de gagner dans l'urgence l'argent dont elles ont besoin.
On reviendra là-dessus parce que vous proposez en effet dans votre livre une lecture sociale, sociologique et économique en choisissant d'explorer certaines formes d'argumentation. Mais peut-être, puisque vous soulignez le fait qu'il y ait ces rires qui sont en effet assez éloquents, assez signifiants dans cette archive de 1946, peut-être on peut s'interroger sur le moment auquel arrivent ces rires. Ils arrivent au moment où les questions de la protection sociale, où les questions d'une forme de syndicalisme, où les questions d'une forme d'organisation de ce métier de la prostitution. Comment, à 70 ans d'intervalle, vous comprenez cela ?
Alors, il y a eu un ensemble de facteurs qui ont joué dans la transformation de la représentation dominante de la prostitution dans notre pays, c'est-à-dire que effectivement le considérer comme un métier comme un autre, auquel des droits seraient attachés, qui supposerait une aussi une organisation collective de ces travailleuses. Il y a 70 ans, c'est incongru, mais depuis, il y a eu des tentatives de mobilisation collective des personnes prostituées, et notamment en 1975, un épisode qui est resté assez célèbre, qui est l'occupation de plusieurs églises par des prostituées en France. Alors, pas tant pour revendiquer un statut professionnel et des droits collectifs, mais pour protester contre la répression policière dont elles étaient l'objet au titre du racolage. Mais ça a été une première fois où des personnes prostituées, des femmes prostituées, ont pris la parole de manière autonome pour exprimer un ensemble de revendications collectives. Alors, cette dimension de la mobilisation, de l'organisation collective des prostituées qui font entendre des revendications en tant que telles, en tant que personnes prostituées, c'est ce qui a sans doute contribué à légitimer le fait que, aujourd'hui, on puisse avoir une association qui s'appelle le Syndicat du Travail Sexuel, qui précisément mobilise cette référence au travail pour se doter d'une base collective sous la forme classique dans le monde du travail d'un syndicat et faire entendre un ensemble de revendications.
Tout à l'heure, vous disiez que finalement, dans cette archive apparaissaient très très bien les deux camps, hein, donc ou bien on continue de considérer que la prostitution est à supprimer parce qu'elle est dégradante et dans ce cas on la supprime, ou bien on la considère et dans ce cas on agit en conséquence. En même temps, vous écrivez très bien aussi dans votre ouvrage combien il y a entre ces deux camps ou au-delà de ces deux camps tout un tas de personnes qui ont un peu plus de mal à se définir dans leur position par rapport à la prostitution, et notamment vous démontrez bien aussi combien c'est un sujet de scission, de débat au sein du féminisme, puisqu'on a dit la majorité écrasante des personnes qui se prostituent sont des femmes. Peut-être, quel est le spectre dans la grande quantité de personnes qui se battent pour le droit des femmes? Quel est le spectre des opinions?
Alors, première petite chose, vous dites majorité écrasante de femmes, c'est à relativiser. Alors, moi, quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet dans les années 90, on avait quasiment un quart, si ce n'est un tiers d'hommes prostitués qui étaient présents. Donc, ce n'est pas aussi marginal. Simplement,
la manière dont le débat... Un quart sur quatre quarts, ça reste quand même une majorité écrasante, non?
Oui, mais significativement quand même, des hommes peuvent se retrouver dans la prostitution. Donc c'est majorité, oui, écrasante, peut-être à nuancer. Voilà, c'est le terme me paraît un petit peu excessif. Mais je pense que justement le fait qu'on considère que c'est une activité essentiellement féminine a à voir avec la manière dont le féminisme a pu s'emparer de cette question et dont la réflexion féministe a été amenée à des positions extrêmement contrastées selon les auteurs. C'est-à-dire que un des problèmes, et qui n'est pas spécifique d'ailleurs à la domination masculine, c'est comment on envisage les personnes qui sont soumises à cette domination. Soit on les envisage comme écrasées par cette domination, comme uniquement comme des victimes qu'il s'agit de secourir pour leur permettre de s'émanciper de l'oppression sexiste qu'elles subissent. Soit il s'agit également d'insister sur leur capacité de résistance, sur le fait que la domination, elle est aussi symbolique et elle s'exerce dans le fait de ne les considérer que comme des victimes, donc que comme des personnes passives qui ont besoin d'une aide extérieure. Et ce faisant, on nie leur capacité de résistance, on nie les formes d'autonomie qu'elles peuvent éventuellement avoir mis en place pour pas surmonter, mais jouer éventuellement avec la domination. Et on retrouve le clivage interne au féminisme à l'heure actuelle entre cette posture très fondée sur la compassion à l'égard de femmes qui sont nécessairement victimes, opprimées, qui sont incapables de se prendre en charge par elles-mêmes, soit, et je dirais que l'effet de balancier, il est tout aussi, il peut être tout aussi porter autant d'inconvénients de ne considérer que les capacités de résistance en les surévaluant aux besoins.
Il y a une très grande différence entre le désir des femmes et le désir des hommes. Et la découverte que j'ai faite, c'est que le désir des hommes peut se passer de l'absence du désir des femmes. Et ça, je trouve ça extrêmement mystérieux parce que chez les femmes, c'est impossible à soutenir, en fait, d'avoir ce doute sur le désir des hommes. Et c'est pourquoi je pense que les hommes sont peuvent être des clients dans une plus large mesure que les femmes, par exemple.
Mais il est toujours possible d'éprouver du plaisir en se passant du plaisir de l'autre, finalement, de se servir de l'autre comme d'un moyen de son propre plaisir.
Pour les hommes.
Oui, mais est-ce que le plaisir est tout de même fade dans ces cas-là? C'est-à-dire, aucun homme n'éprouve...
Si c'était le cas, il n'y aurait pas autant de clients.
Ce sont les voix de Nelly Arcan et de Raphaël Enthoven dans Les Chemins de la Connaissance. C'est une archive de 2007, une émission diffusée sur France Culture. Nelly Arcan venait parler d'un livre où elle témoignait, alors dans un exercice de littérature, mais en partie d'une expérience vécue et liée à la prostitution. Il y a pas mal de lapsus et de glissements de sens dans cette archive. Le premier lapsus peut-être, c'est la phrase de Nelly Arcan qui dit « Le désir des hommes peut se passer de l'absence du désir des femmes ». Or, on peut imaginer que ce qu'elle souhaite dire, c'est « Le désir des hommes peut se passer du désir des femmes ». Premier lapsus. Et deuxième lapsus ou incompréhension ou glissement, c'est on passe du champ du désir, discuté par Nelly Arcan ou affirmé par Nelly Arcan, au champ du plaisir, puisque dans une sorte de connotation sonore, Raphaël Enthoven enchaîne sur la question du plaisir. Ce qui me permet, Lilian Mathieu, d'aborder la première partie de votre livre où vous discutez des arguments qui sont portés pour ou contre la prostitution et qui concernent le désir. Alors, dans un premier temps, quel est votre point de vue par rapport à ce que vous venez d'entendre ?
Alors, ce qui est assez frappant, c'est la manière de parler en toute généralité des hommes et des femmes. C'est-à-dire qu'on est dans une forme d'essentialisation de la manière dont les femmes d'un côté, les hommes de l'autre, envisagent la sexualité au travers des questions du désir, du plaisir... du partage ou de la manière de percevoir les réactions du partenaire sexuel. C'est ça qui me semble très homogénéisateur et sans doute de manière excessive. C'est-à-dire que Nelly Arcan a une formule aussi où elle dit « Bon, les hommes peuvent être clients par nécessité, parce qu'ils sont hommes. » Or, bah, on s'aperçoit que ce sont des choses extrêmement variables en fonction des contextes sociaux et historiques. Et notamment, j'y insiste à la fin de mon ouvrage, la part des hommes qui ont recours à la prostitution au cours de leur vie a nettement baissé au cours des 40-50 dernières années. Donc ce n'est pas quelque chose qui est inhérent à la condition masculine, on va dire, de toute éternité, que d'avoir une prédisposition à être client de la prostitution.
D'ailleurs, dans ce rapport sur les pratiques sexuelles des Français, il est aussi stipulé que cela devient de moins en moins le lieu de la première expérience sexuelle, une relation sexuelle avec une prostituée. Ce qui est assez intéressant quand vous parlez d'essentialisation, c'est que vous montrez aussi que quel que soit le camp d'argumentation, il y a une forme de recherche d'essentialisation de la prostitution. Pourquoi ? Parce que c'est trop difficile à penser. On essaye de penser la prostitution comme un truc qui serait... unique et essentialisé et du coup difficile à penser dans sa complexité.
Je pense que c'est aussi lié au débat qu'on a connu depuis, on va dire, une dizaine, quinzaine d'années en France, où il s'agit de trouver des solutions définitives à un problème. Et si on recherche une solution définitive, on s'embarrasse pas de nuances. On va pas, évidemment, aller dans la complexité. Donc, ce qui explique aussi ce que j'évoquais tout au début, c'est-à-dire la polarisation le clivage extrêmement fort entre deux positions radicalement opposées. Soit la prostitution, c'est un esclavage à abolir, soit c'est un métier à reconnaître. Une incapacité à penser tout le dégradé ou le nuancier de situations qui existent entre des situations d'oppression extrêmement brutales, qu'il ne s'agit évidemment pas de nier, et des situations beaucoup plus favorables de gens qui arrivent à aménager leur existence, qui sont sans doute minoritaires, mais qu'il est difficile de nier ou d'invalider d'un revers de main. Donc les termes du débat et la recherche de solutions politiques qui l'accompagnent empêche d'aller très en profondeur dans la complexité des phénomènes et des situations.
La première partie de votre livre, qui donc s'intéresse justement à ces termes du débat, pose la question du désir dans ce débat et de la discussion autour de la légitimité d'une sexualité sans désir, partant du principe qu'un rapport sexuel financé dans le cadre de la prostitution, en tout cas, il n'y aurait pas de désir, du moins du point de vue de la personne qui vend ce service. En quoi est-ce que justement cette question du désir et de la norme par rapport à ce désir est prégnant dans le débat ?
Alors c'est un des arguments relativement nouveaux qui ont été avancés pour invalider la prostitution, qui est le fait que dans la rencontre entre la prostituée et le client, sans doute que le client est motivé par quelque chose de l'ordre du désir sexuel, mais que la prostituée, c'est pas sa motivation, elle ne vient pas pour une satisfaction d'ordre érotique, elle ne s'engage pas en cette relation pour une satisfaction de cet ordre, mais pour un gain financier ou sous l'effet de la contrainte d'une tierce personne qui peut être un proxénète. Donc on peut constater dans l'appréhension de la question prostitutionnelle l'injonction à une égalité, une réciprocité du désir entre les partenaires, ce qui est quelque chose d'assez récent. Les morales conjugales jusqu'au 19e siècle posaient quand même de manière, au début du 20e siècle, posaient de manière très secondaire la question de la satisfaction érotique de la femme dans les rapports conjugaux.
Quand il l'a posé tout court.
Oui. On a des débats. Enfin, j'y fais référence sur l'éducation sexuelle auquel avait participé le fondateur de la sociologie française, Émile Durkheim, dans les années 1910. Il s'agit d'éduquer les jeunes hommes à la sexualité, mais la question ne se pose pas pour les jeunes filles, évidemment. La question serait tout à fait scandaleuse d'envisager une éducation sexuelle pour les filles. Donc, il y a une modernité avec une injonction d'égalité, de réciprocité dans les rapports entre partenaires sexuels. Alors, ce qui est sans doute un progrès de nos conceptions morales autour de la sexualité, mais dont on peut trouver curieux ou étonnant qu'elle s'applique de manière exclusive à la prostitution, quasiment, et délaisse un ensemble d'autres situations, et y compris de manière centrale conjugale, où cette réciprocité du désir est loin d'être établie.
Parce que vous faites une forme d'histoire de cette pensée, alors là en l'occurrence plutôt une pensée féministe, hein, qui est très engagée dans ces argumentations polarisées, et vous dites qu'une partie du mouvement féministe a justement démontré que la famille et le couple étaient un lieu central de l'oppression et de l'inégalité, et par conséquent de l'inégalité des situations des désirs dans des situations sexuelles. Alors vous dites, vous relevez l'incongruité qui serait que on fait attention à cette question de l'inégalité des désirs dans la rue, dans des rapports monnayés, dans le cadre de prostitution, alors qu'on le ferait pas du tout ou pas dans des sphères plus intimes.
Oui, c'est un des aspects étonnants de ce débat, c'est-à-dire qu'on a, mais de manière plus large, on a tout un ensemble de traditions philosophiques qui sont très méfiantes, voire hostiles à la sexualité, qui sont aujourd'hui, sous l'effet notamment de la critique féministe, invalidées, mais dont on retrouve les traces simplement lorsqu'elles sont appliquées à ce seul objet qu'est la prostitution. C'est-à-dire, je pense par exemple à la philosophie d'Emmanuel Kant qui considère que la sexualité, de manière générale, est quelque chose de très, très condamnable. Parce que c'est réduire autrui, la personne pour qui on a un désir, on éprouve un désir sexuel au statut d'objet. C'est-à-dire, il dit, bon, éprouver du désir sexuel, c'est comme envisager autrui comme un rôti de porc qu'on va manger parce qu'on a faim. Bon, alors évidemment, aujourd'hui, plus personne ne va dire ça sur la sexualité de manière générale. Par contre, on va dire réduire autrui, la prostitution, c'est réduire autrui à un statut d'objet. Ce qui est assez contestable, parce que si véritablement les prostituées étaient réductibles au statut d'objet, eh bien on les remplacerait par des objets, on les remplacerait par des machines, ce que font les employeurs dès qu'ils le peuvent dans le monde du travail. plutôt que d'avoir des ouvriers qui se mettent en grève pour revendiquer des augmentations de salaire, on les remplace par des machines. Pourquoi des clients s'embarrasseraient à payer des prostituées si elles pouvaient être remplacées par des machines? Ben justement, elles ne sont pas remplaçables par des machines parce que ce qui intéresse les clients, c'est l'humanité des personnes prostituées.
Alors là,
c'est le
aussi...
fait que ça soit... La véritable personne humaine.
Là, c'est aussi à votre tour de parler avec des très grandes généralités. Ce qui intéresse les clients, c'est aussi un peu difficile pour vous de le dire, non ?
Bah, de fait, les poupées gonflables, lorsqu'elles sont apparues, je ne sais pas quand, dans les années 60-70, ne sont jamais parvenues à détrôner les personnes sur leur bout de trottoir ou aujourd'hui qui mettent des petites annonces sur Internet. Donc... De fait, c'est bien ce qui n'empêche pas parler que les clients recherchent une personne humaine qui va leur fournir des prestations sexuelles. Ça ne veut pas dire qu'ils les respectent, ça ne veut pas dire qu'ils les méprisent pas, ça ne veut pas dire qu'ils sont pas capables de les agresser le cas échéant, qu'ils sont pas capables de marchander de manière absolument atroce et de les insulter une fois avoir obtenu le service qu'elles ont eu. Mais forcé de reconnaître que la prostitution, même si moins d'hommes y ont recours, parce qu'ils ont d'autres relations sans doute, parce qu'ils ont d'autres relations sexuelles entre humains qui leur sont plus facilement accessibles qu'il y a 50 ans, continuent malgré tout à solliciter les services de prostituées. You don't have to put on the red light. Those days are over. You don't have to sell your body through the night. Roxanne, you don't have to wear that dress tonight. Walk the streets for money. You don't care if it's wrong or if it's right. Roxanne, you don't have to put on the red light. Roxanne, you don't have to put on the red light. 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 Put on the red. Since I knew you, I wouldn't talk down to you. I have to tell you just how I feel. I won't share you with another boy. I know my mind is made up, so put away your makeup. I've told you once, I won't tell you again. It's a crime the way. Roxanne, you don't have to put on the red light, Roxanne. You don't have to put on the red light. 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 Put on the red light.
You are listening to France Culture, Les Nouvelles Vagues, par Marie Richeux.
J'ai 28 ans, je viens de Slovénie, donc je suis née à Ljubljana, d'une famille modeste et heureuse. Mes parents, ils ont une petite usine de vin, ils sont viticulteurs. J'ai grandi dans une famille tellement heureuse, j'ai vécu là-bas jusqu'à mes 23 ans. J'ai fini le conservatoire d'art dramatique à Ljubljana. Mais seulement après mes études, je voulais voir quelque chose d'autre. Et un jour, je me suis dit, allez, tu vas découvrir un petit peu le monde, parce que Ljubljana, c'était trop petit pour moi. Donc j'ai un petit peu voyagé partout dans le monde. Et quand je suis allée au Brésil, j'ai rencontré par hasard un Français qui habite à Paris. Donc je suis arrivée en France, à Paris, il y a 5 ans. J'ai vécu avec lui 3 ans. Mais cette histoire s'est terminée. Et voilà, moi je voulais pas retourner à Ljubljana. Je me suis dit, tu as une opportunité ici, il faut que tu restes ici. Donc voilà, aujourd'hui je suis là. J'ai travaillé dans un bureau. Et donc, métro, bureau, voilà, et tout ça, ça m'a fait tellement chier d'être au milieu des gens le matin, voilà, qu'on prend le métro, tellement négatif et tellement... Et d'ailleurs, tu viens à un bureau, tu fais tout ce que tu n'aimes pas, et tu ne sais même pas qui tu es, tu ne sais même pas, voilà, est-ce que tu peux tenir 5 jours par 7 pendant un an? Je me suis dit, non, tu ne veux pas faire ça, tu ne veux pas vivre comme les autres. Tu vas avoir un peu plus des couilles et de faire quelque chose de ta vie. Un jour, j'étais dans un bar, j'ai rencontré une Brésilienne tellement mignonne, tellement sympa, tellement chaude et parlait tellement fort. Donc elle m'a dit à un moment donné, voilà ma chérie, qu'est-ce que tu fais dans la vie? J'explique, je fais la merde dans un bureau, voilà, qui me fait chier. Et à un moment donné, elle m'a dit, bah, là, en ce moment, je suis escort girl. Pourquoi tu fais pas ça? Parce que tu es assez ouverte. Tu vas voir, c'est pas du tout comme on pense. On a toujours eu cette image des putes, des... Combien de fois c'est arrivé, voilà, que tu sors de bar avec un mec, avec un inconnu, pour aller te baiser, voilà, tout ça. Et elle m'a dit, ma chère, tout ça gratuit. Elle m'a dit, bah vas-y, tu t'inscris sur un site, et tu vas faire comme moi je t'ai dit, tu vas passer un bon moment et tu vas payer pour ça. Et si t'es prête, tu m'appelles. Je suis rentrée à la maison, j'ai regardé son site. J'ai dit, putain, non, c'est... Wow, est-ce que vraiment je vais consacrer ma vie pour ça? Et j'ai jamais eu aucun problème de pute et de tout ça. C'était aucun tabou pour moi. C'était les femmes comme les autres. Donc là, j'ai réfléchi. Je me suis dit, ok, pourquoi pas?
C'est la voix de Maya, 28 ans, dans un reportage de Rémi Douat et Emmanuel Geoffroy, diffusé dans Les Pieds sur Terre en septembre 2015. Lilian Mathieu, la deuxième partie de votre livre qui s'attache à explorer les argumentations, quel qu'en soit le camp autour de la prostitution. La deuxième partie s'appelle « Les prostituées peuvent-elles consentir ?» Ici, dans la voix de Maya, on entend l'idée d'un choix, d'un refus dans un premier temps, le refus d'un certain mode de vie, d'un certain mode de rapport au travail, et ensuite l'idée d'un choix. Est-ce que l'idée d'un choix va avec le consentement et comment cette question du consentement est présente dans les argumentations?
Alors, ce qu'on vient d'entendre, force est quand même de reconnaître que c'est une situation extrêmement favorisée, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui effectivement a les moyens de faire des choix. C'est-à-dire que, bon, effectivement, son emploi, manifestement, ne la satisfait pas, mais elle n'est pas conduite par la nécessité, par la contrainte, par exemple, économique, de s'engager dans la prostitution. Elle a une palette d'options possibles. Elle bénéficie de ressources manifestement importantes. Elle a eu les moyens de voyager. Elle sait se lier avec des gens qui lui offrent des opportunités de voyager ou de trouver des options professionnelles. Elle a un capital culturel élevé. Oui, c'est quelqu'un qui a les ressources nécessaires pour faire des choix. Et dans son cas, il serait difficile de lui nier une capacité à consentir à ce qu'elle fait, à cette activité qui est pas tant de prostituée que d'escorte. Hein. Elle utilise ce terme et elle prend soin de le mettre à distance de l'idée de pute, c'est-à-dire que des représentations les plus défavorisées, les plus dégradées de la prostitution, par exemple dans une camionnette, dans une ruelle sombre, à la périphérie d'une grande ville. Alors, la question devient évidemment plus complexe lorsque on s'intéresse à ce type de prostitution qui est quand même beaucoup plus largement développée, de personnes qui précisément n'ont pas le choix. J'avais lu dans un travail de collègues sur la prostitution des Chinoises qui disait la prostitution c'est un choix quand on n'a pas le choix. C'est-à-dire que c'est une des seules options possibles dans des situations d'extrême précarité, de grandes contraintes qui précisément fait que la palette des alternatives, elle est extrêmement réduite, voire elle se réduit à cette seule option de la prostitution. Donc effectivement, dans des situations de cet ordre, l'idée de choix n'a pas beaucoup de sens. L'idée de consentement est également assez discutable. N'apparaît pas comme une notion qui permet de rendre compte des situations ou des parcours des personnes.
Je me fais volontairement porteuse de la contre-argumentation d'ailleurs à cette idée de choix, et ce qui montre bien que c'est un argument, et d'ailleurs vous l'écrivez parfaitement, qui est difficile à faire basculer d'un côté ou de l'autre, parce que il y aura très bien des personnes pour répondre que est-ce que faire par exemple 2 heures de ménage de 4h30 du matin à 6h30 du matin à 1h30 de transport de chez soi, puis être obligé de refaire ce trajet dans l'autre sens simplement de 21h à 22h30, est-ce qu'on peut parler de choix, est-ce qu'on peut pas parler de situation comparable en termes de d'extrémité dans la précarité? Il y a des personne pour porter ce discours-là, pour opposer ce discours-là à la question du choix et de la précarité, et pour dire pourquoi pénaliser davantage le fait de monnayer des rapports sexuels, en tout cas regarder différemment le fait de monnayer des rapports sexuels que de faire ce que je viens d'écrire et d'avoir cette vie pénible à faire des ménages dans des grands groupes très très loin de chez soi. Comment répondre à cette argumentation-là? En tout cas, pas comment répondre, mais comment est-ce qu'on y répond? Quels sont les arguments qui y répondent?
Je pense que cette argumentation, précisément, elle est assez pertinente. De fait, si on envisage la prostitution sous un angle économique, social, elle apparaît comme une activité pénible, souvent dangereuse, avec des conséquences dommageables pour la santé, comme une multiplicité d'autres activités qui sont éventuellement proposées, voire imposées par Pôle emploi aux personnes qui sont faiblement qualifiées. C'est-à-dire, vous avez pris l'exemple des femmes de ménage. Moi, je prends souvent l'exemple des intérimaires qui travaillent dans l'industrie nucléaire, qui descendent réparer ou nettoyer dans des zones à forte radiation. C'est pas forcément meilleur pour la santé. Est-ce que une des questions aussi que je pose de manière un petit peu provocatrice, c'est est-ce qu'on se suicide plus sur les trottoirs que à France Télécom? Je n'ai absolument pas d'éléments de réponse. Je pense pas que qui que ce soit lésé. Néanmoins, poser la question invite à plutôt que de réfléchir de manière essentialiste sur la prostitution, qui serait une abomination sans égale, à la situer en regard d'autres situations économiques, et précisément d'envisager ça en termes de choix de consentement, et de pointer que ces notions de choix et de consentement sont problématiques, mais pas que pour les prostituées.
Et finalement, ça demande d'interroger la manière dont s'exerce la radicalité pour regarder la prostitution et dont elle s'exerce un petit peu moins pour regarder ces autres situations professionnelles que vous décrivez, ce qui était déjà le cas tout à l'heure pour la question de l'égalité des désirs, c'est-à-dire elle était très clairement reprochée, cette inexistence de l'égalité des désirs dans le cadre de la prostitution, et on la regardait un tout petit peu moins dans le cadre de l'intimité et dans le cadre de la famille. Alors, comment expliquer que finalement la vente de services sexuels, la vente de rapports sexuels, soit regardée en fait à chaque fois différemment que le reste?
Parce que précisément, c'est une vente de services sexuels. C'est-à-dire que dans le cas de... si on envisage la prostitution en regard d'autres activités professionnelles qui peuvent être également pénibles, dangereuses, etc., on va invoquer le fait que la prostitution est spécifique parce que elle engage la sexualité des personnes, c'est-à-dire le plus intime. D'ailleurs, c'est pas simplement les yeux ou les doigts de la couturière, mais c'est le vagin, l'anus, la bouche, des parties sexualisées de la personne, et que ces parties du corps humain sont dotées d'une, sont sursignifiantes d'une certaine manière, sont surinvesties de signification, et on va avoir avec le moi le plus profond des personnes. Donc altérer ou porter atteinte à ces parties-là du corps et à la dimension sexualisée du corps n'a pas les mêmes conséquences que d'autres activités qui professionnelles ou autres qui peuvent avoir des effets également dommageables sur le corps.
Alors ça veut dire qu'il demeure dans la société contemporaine une place spécifique à ce qui a trait à la sexualité, et qui justifierait la polarisation si forte autour des questions de prostitution. On entendait au tout début de cette émission la voix de Michel Foucault. Évidemment, ce n'était pas un hasard. Ce serait une forme d'explication à cette polarisation forte ?
Alors, je pense que c'est un des ressorts d'un certain nombre de prises de position qui vont arguer de l'irréductible singularité de la prostitution et de son abomination constitutive, essentielle. C'est-à-dire qu'elle touche au plus intime, elle touche à quelque chose qui serait de l'ordre du sacré dans la sexualité. Or, il me semble que c'est à la fois un argument extrêmement intéressant et extrêmement puissant qui a été par exemple évoqué par la philosophe anglaise Carol Patman dans son ouvrage Le contrat sexuel, mais qui me semble également extrêmement ambigu. C'est-à-dire que arguer d'une sacralité de la sexualité qu'il faudrait mettre à l'abri de toute forme de profanation, et la prostitution serait une des formes les plus extrêmes de cette profanation, c'est quelque chose qui peut aussi légitimer un contrôle extrêmement strict, extrêmement sévère du corps qui justement est le plus vulnérable à ce type d'agression, c'est-à-dire le corps féminin. On a quand même quelques milliers de traditions religieuses qui ont argué de cette sacralité du sexe et du corps des femmes pour imposer aux femmes un contrôle extrêmement strict et extrêmement oppressif de leur activité sexuelle.
Toujours d'ailleurs dans l'analyse de cette argumentation sur la question de la vente et de la spécification de la vente de services sexuels ou de rapports sexuels, vous écrivez que par ailleurs il y a une réglementation très forte et des interdictions très fortes sur, en France en tout cas, sur la vente d'organes, sur la vente de parties de son corps. Et il y a encore une différenciation entre réglementer la vente d'une partie de son corps et réglementer la vente de rapports à ce corps-là.
Oui, c'est une des ambiguïtés, je pense, et une des impasses des appréhensions de la prostitution comme relevant de la vente du corps. C'est-à-dire ce qui est vendu, ce qui est monnayé, c'est un usage du corps pour un temps limité. C'est-à-dire que le client ne reste pas propriétaire du corps de la prostituée au terme de la passe. Ou alors ça supposerait que les prostituées aient chacune une multiplicité de copropriétaires, ce qui est assez difficile à envisager. Simplement cet argument de la vente du corps, de l'idée de la réduction une nouvelle fois du corps des prostituées au statut de marchandise, permet d'invoquer un parallèle avec l'esclavage, mais qui, lorsque on regarde véritablement de quoi il s'agit dans les transactions entre clients et prostituées, ne va pas bien loin.
Le texte prévoit une amende pouvant aller jusqu'à 1 500 €. Près de 6 mois après son entrée en vigueur, Ève Roger, a-t-elle été appliquée et combien de clients ont été verbalisés ?
Eh bien, d'après les chiffres que nous nous sommes procurés, ils sont 249. Le premier, c'était un quinquagénaire surpris le premier jour d'application du texte dans la forêt de Fontainebleau, en région parisienne. On en a verbalisé d'autres à Paris, dans le quartier de Belleville ou dans le bois de Vincennes, mais aussi, et c'est plus étonnant, dans le Languedoc, en particulier dans la ville de Narbonne, où le procureur affiche une 50aine d'amendes à lui tout seul. Et pour Grégoire Théry, du mouvement d'Uni, c'est une association qui vient en aide aux prostituées, ce chiffre, qui peut paraître petit, est au contraire plutôt une bonne surprise.
En France, moi j'ai trouvé que ça allait plutôt vite, surtout qu'on nous avait quand même dit que ce serait soi-disant très compliqué de constater les faits et d'obtenir des aveux des clients. Donc certes, l'application pourrait être beaucoup plus importante en chiffres, mais ça a vite démarré et ça a démarré sans difficulté.
Dans la plupart des cas, les hommes verbalisés reconnaissent les faits sans difficulté. Tous ne paient pas l'amende maximum 1 500 €, plutôt entre 300 et 500 € en fonction de leurs ressources.
C'est un extrait d'un journal diffusé sur Europe 1 et qui revenait 6 mois après, en septembre 2016, il y a quelques jours, sur la loi promulguée en avril 2016 et qui pénalisait les clients de la prostitution. Vous revenez aussi dans votre ouvrage, Lilian Mathieu, sur ce choix de la répression du client. Qu'est-ce qu'il traduit, dans la polarisation de l'argumentation autour de la prostitution ?
Je crois qu'il traduit certaines difficultés à gérer la prostitution comme réalité sociale qui existe dans différents espaces, que ce soit l'espace urbain où la prostitution est de plus en plus indésirable, ou que ce soit sur l'espace national où c'est la présence de prostituées considérées avant tout sous l'angle de la migration, hein, de prostituées étrangères qui pose problème. Alors, ce qui m'apparaît assez curieux dans ce qu'on a entendu, mais là on sort un petit peu du débat philosophique pour rentrer dans l'argumentation davantage d'ordre politique, c'est ce qui a légitimé la pénalisation des clients, ça serait le fait que la prostitution serait en elle-même une violence sexiste, donc commise par les hommes clients à l'encontre des femmes, et qu'elle serait assimilable de ce point de vue à d'autres agressions sexuelles, sauf que les agressions sexuelles sont punies par de longues peines d'emprisonnement. Or là, ce sont des contraventions de cinquième classe, d'un maximum de 1 500 €, mais dont on nous dit qu'elles sont nettement moins lourdes dans la pratique. Ce qui apparaît également, c'est le caractère très localisé de cette politique de pénalisation des clients, dont on peut supposer que ça répond aussi à des enjeux locaux, strictement. C'est-à-dire, comme le racolage auparavant, la pénalisation des clients est un instrument au service de la police pour éloigner l'activité prostitutionnelle là où elle est indésirable et pour la cantonner aux zones où elle n'est pas susceptible de faire désordre dans le paysage, c'est-à-dire dans les zones périphériques, c'est-à-dire des grandes agglomérations, c'est en bordure de routes dans les campagnes, et c'est également sur Internet.
Donc, ce qui est le plus frappant à vous écouter, Lilian Mathieu, c'est la mise à jour d'un deux poids, deux mesures avec des argumentations qui pourraient paraître similaires, c'est-à-dire sous le prétexte d'une défense des droits des femmes, on agit contre la prostitution, mais on agit beaucoup moins fort que contre les autres agressions sexuelles, tout en considérant qu'il s'agit quand même d'agressions sexuelles. Il y a une forme de, si je peux me permettre ce mot peut-être un peu gros, mais de malhonnêteté intellectuelle dans tout ça.
Je vous laisse la responsabilité du terme, mais je pense que d'une part qu'il y a beaucoup de confusion dans le débat, c'est aussi pour ça que j'ai voulu faire cet ouvrage pour...
Qui en repose les termes
clarifier, oui, les termes et les argumentations, c'est-à-dire qu'on a un certain nombre de slogans davantage que d'argumentations qui sont couramment invoquées, de phrases définitives plutôt que de raisonnements logiques ou appuyés sur des faits empiriques à peu près fiables. Et puis, je dirais, il y a des enjeux politiques très très immédiats qui était déjà présent à peu près dans les mêmes termes lorsque, en 2002, le ministre de l'Intérieur de l'époque a préconisé le rétablissement de la peine de racolage, du délit de racolage passif pour aider les pauvres malheureuses de la traite des êtres humains, en disant que c'était un devoir humanitaire, hein, je cite Nicolas Sarkozy au Sénat en 2002, que d'arrêter les prostituées, de les condamner pour racolage et de les raccompagner chez elles, c'est-à-dire dans leur pays d'origine.
There is a house in New Orleans. They call the rising sun. God. rising sun.
The House of the Rising Sun, dans la version de The Animals, l'histoire d'une maison où on jouait et où l'on se prostituait. Dans cette version de The Animals, mais elle a aussi été reprise, cette chanson, cette vieille chanson américaine, par Bob Dylan, qui vient de recevoir le prix Nobel de littérature. Lilian Mathieu, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre livre, Prostitution, quel est le problème, aux éditions textuelles. Et merci aux équipes du bureau de France Bleu à Lyon d'avoir permis cette liaison.
Vous écoutez France Culture, les nouvelles vagues par Marie Richeux.
Il est 14h52 sur France Culture, l'heure de la rubrique 5 fois, pendant laquelle nous écoutons jusqu'à vendredi la voix de Diane Le Riche. Elle parle aujourd'hui encore de la progressive mise en concordance de son identité de genre et de son corps, et de l'importance de la reconnaissance en tant que formatrice, donc en tant que femme, dans le domaine professionnel. On l'écoute.
Le jour où j'ai décidé de dire que je me déguise plus en homme, que je décide d'être moi, de vivre en étant moi, bah, y a les CV, ça passe, les entretiens, ça passe, mais les papiers, ça passe pas. Donc je me remets en question, et puis j'ai une envie au niveau professionnel, c'est de faire ce que, quand j'étais enfant, ce que j'avais envie, c'était de transmettre. Parce qu'enfant, j'étais toujours avec les plus anciens. Je récupérais les connaissances, le savoir, je trouvais ça génial. Et je voulais transmettre à mon tour, parce que j'arrivais à un âge où j'ai besoin de transmettre. Donc j'ai fait une reconversion. J'étais à Pôle emploi et j'ai demandé à faire une formation. J'attendais et puis on m'a contacté pour faire la formation. J'ai fait la formation. J'ai cette chance à Pôle emploi de... Alors, c'est une chance et en même temps une schizophrénie. J'explique. C'est-à-dire qu'à Pôle emploi, je suis Diane Le Riche, mais je suis Monsieur Diane Le Riche parce que j'ai ma carte de sécurité qui commence par un 1. Et du coup, je recevais des courriers au nom de Monsieur, Monsieur Le Riche ou de Diane Le Riche. Et quand j'ai pu faire ma formation pour être formatrice professionnelle pour adultes, bah, dans l'organisme, il n'y a eu aucun souci. C'est-à-dire que, voilà, non, mais vous êtes Madame Diane Le Riche, il n'y a pas de souci pour votre formation. Pour le titre, pour la certification, il n'y a aucun problème. C'est un organisme qui a des valeurs très très fortes, qui lutte contre les discriminations depuis très 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 longtemps. Et donc j'ai fait cette formation. Et pendant la formation, ça s'est passé très très bien, ce qui fait que juste au moment de finir, même un peu avant de finir la formation, l'organisme m'a embauché pour être formatrice professionnelle pour adultes. Donc je suis enfin reconnue, il n'y a pas très longtemps, c'est un CDD, mais c'est un début. C'est le début d'une nouvelle vie et je peux enfin transmettre le savoir, je peux faciliter le savoir, je peux aider, parce que toute ma vie, c'est ce que j'ai voulu faire. Aider par les connaissances. Là, je suis enfin reconnue en tant que Diane Le Riche, formatrice professionnelle pour adultes. Enfin, voilà, c'est une des premières étapes importantes au niveau professionnel, au niveau institutionnel, d'être reconnue. Même si l'État ne me reconnaît pas, le professionnalisme me reconnaît en tant que femme, sans avoir aucun préjugé. Et puis, de toute façon, quand on me voit, il n'y a aucun préjugé à avoir. Ça serait plus choquant de m'appeler monsieur que madame.
Hello worker, hello dad, hello worker, hello mom, I come for you. The old night has gone through, we'll awake, we're lucky to are in it to talk to you. Early words we could share are always too soon in the afternoon, in the afternoon. I'm
Hello Workers by Rose Tasset pour terminer cette émission. Et puisque Diane Leriche en parlait hier, je rappelle l'adresse sur laquelle on peut se renseigner pour la marche Existrance qui va avoir lieu samedi à Paris. C'est sur le site existrance.org. Les nouvelles vagues, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous sommes présents sur les réseaux sociaux pour continuer d'échanger avec vous. Twitter, Facebook, mais aussi bien sûr franceculture.fr. Tous les moyens sont bons pour réécouter le podcast et le faire circuler autour de vous. Ne vous en privez pas. Merci à Romain Debec de Lièvre, Inès Duperron et Alice Ramon qui pensent et préparent cette émission avec moi. Et à Véronique Villa qui la réalise. Michael Simon à la suggestion musicale et aux manettes aujourd'hui, c'était Clément Daté. Au droit d'auteur, Charles Barjou. Dans un instant, c'est la littérature avec Mathieu Garrigou-Lagrange. Je vous retrouve demain même heure. Belle journée à tous.